Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, il est 20h pile en ce mercredi 3 juin. Merci d'être là, c'est Tech & Co, la quotidienne, à la radio, à la télé. Et vous le savez, chaque soir, on est en direct de 19h30 à 21h pour commenter l'actu tech. Avec ce soir, sur le plateau, toujours Philippe Devost, Christophe Honnet et Frédéric Simotel. Si vous êtes avec nous à la télé, vous les voyez, ils apparaissent comme par magie, grâce à notre truquiste Chris, qui est tellement fort. Regardez-moi ça, c'est superbe. Vraiment.
Depuis que Paris a une double étoile, il est,
voilà,
c'est sur un nuage.
Il donne le maximum de lui-même. Plus sérieusement, les amis, je vous propose maintenant de nous intéresser au quantique avec la start-up Cobly qui confirme une levée de fonds de 115 millions d'euros. Un pari réussi pour le spin-off issu du CEA Leti qui va commencer la commercialisation de son ordinateur quantique. Et sa fondatrice, Maud Vinet, était dans Good Morning Business ce matin. Quelques extrait choisi tout de suite.
Cette levée de fonds, elle marque la transition entre démonstration technologique et exécution industrielle. Nous allons commercialiser nos ordinateurs quantiques. Ils seront disponibles sur le cloud à partir de fin 2026 via OVH, acteur français. Et donc, cette levée de fonds va nous permettre à la fois de continuer la R&D et augmenter la performance de nos ordinateurs quantiques, accélérer l'industrialisation et, on vient de le dire, de passer à la phase commercialisation et à l'expansion internationale.
Bravo à Cobly! On est d'accord.
Exactement.
115 millions d'euros.
Il rejoint les Pascal, les Candela, Alice et Bob,
etc. Vous connaissez Cobly ou pas?
Moi, non, je ne connaissais pas.
Non?
Je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce à l'émission. C'est super d'avoir. D'abord, le CEA Leti est connu pour quand même faire émerger des très beaux projets de recherche qui se trouvent aussi, qui essaimaient en start-up qui réussissent. On confirme le fait qu'on a une vraie capacité d'innovation dans le quantique, avec un certain nombre d'acteurs, soit Candela, Alice et Bob, etc.
On arrive à
lever des fonds dans centaines de millions. La question demeure sur les étapes d'après. Quand on voit aujourd'hui les financements des projets, mais il faut aussi qu'on ait cette capacité à avoir des fonds, et notamment européens, pour le faire. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans leur dans leur approche, c'est que ils apportent une brique, une solution potentielle à la capacité de passage à l'échelle du quantique. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque ordinateur quantique ou chaque puce, enfin, c'est une œuvre d'art.
En plus, ils ont tous des technologies un peu différentes, tu vois.
Voilà, et qui sont capables de.
C'est d'ailleurs des paris et des destinations, on va dire, assez courageuses, parce que on ne sait pas trop où on va. Hein. C'est assez exploratoire, toutes ces technologies. Il y en a peut-être une qui sera la bonne, et peut-être même qu'on ne l'a pas encore explorée. Donc, c'est beaucoup d'argent pour des résultats qui ne sont pas sûrs à 100% de porter leurs fruits.
Ce qui est intéressant, c'est que leur technologie permet d'imaginer et de concevoir des puces quantiques, enfin des processeurs quantiques sur des infrastructures de
silicium.
Sur le silicium et les infrastructures existantes. Donc, c'est intéressant parce que ça permet évidemment de passer à l'échelle, de diminuer le coût et puis de pouvoir utiliser du silicium et donc des infrastructures existantes, ce qui pour nous en Europe est potentiellement une bonne nouvelle.
Oui, c'est ce que dit Maud Vinet ce matin en matinale. Elle dit oui, les procédés de fabrication, on les a déjà. Donc maintenant, après, il faut lancer. Après, il faut trouver les clients. Enfin, faut aller.
Oui, et puis il faut que le quantique réalise ses promesses, à savoir parce qu'on parle de la passage à l'échelle, mais aussi la stabilité des systèmes qubits pour pouvoir passer à l'échelle et avoir une fiabilité, enfin tous les challenges qu'on connaît autour de quantique qui restent aujourd'hui des challenges.
Ils ont des ambitions assez fortes puisqu'ils prévoient de sortir leur premier ordinateur quantique d'ici la fin de l'année, qui s'appellera Alloy. A2LOY.
D'accord.
Alloy ou Alloy. Qui pourra servir par exemple pour la recherche notamment. Philippe Cobly.
C'est très intéressant comme disait Frédéric, de voir que la France maîtrise la recherche et l'exploration de plusieurs filières très différentes en matière d'ordinateur quantique. La deuxième chose que je trouve intéressante dans cette entreprise que j'ai découverte grâce à vous, c'est le fait qu'ils sont le pari qu'ils font est moins un pari de science dure ou de, enfin c'est moins de la physique fondamentale, mais ils sont déjà plus, enfin ils résonnent en tout cas en termes de processus et comme tu le disais Christophe en termes de d'industrialisation et c'est ça qui leur permet à mon avis d'aller assez rapidement. Sans limite sur le matériau puisque c'est du silicium et que on en a a priori sous les pieds donc tout va enfin sous les pieds et sous le pied et puis oui je trouve que le pari est intéressant et puis c'est une très belle levée de fonds surtout pour une série A c'est-à-dire un premier vrai financement donc c'est une belle aventure.
Ouais, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone cet après-midi qui me disait quelque chose de marrant. Il me disait, écoute, j'ai l'impression qu'on se retrouve comme il y a 15 ans. C'est-à-dire que les fondamentaux sont là, ils sont validés, les fondamentaux techno. Maintenant, c'est le passage à l'échelle et les capacités d'industrialisation. Alors, ce qui est intéressant dans la levée de fonds de Cobly, c'est que si on regarde un peu les fonds derrière, donc il y a BPI France, il y a un fonds européen EIC, il y a Air Liquide, il y a ST Micro. Oui. Donc, ça veut dire que derrière...
Parce que ST Micro, je crois, va participer à la fabrication du processeur.
Justement, donc du coup, ça veut dire qu'il y a des usines, des chaînes de fabrication, des capacités d'industrialisation.
Oui.
Donc, ça, c'est
il y a plutôt... tout un écosystème
voilà.
autour.
Oui. Ils n'ont pas juste pris l'argent puis dire, bon, après, on essaiera de se débrouiller. Donc, je trouve qu'il y a ça. Le fait, comme on l'a dit, qu'ils soient sur silicium, ça veut dire qu'ils vont avoir des procédés intéressants. Et puis, voilà, puis ça fait partie de nos fleurons. Il y en a un dont on ne parle pas, c'est C12 aussi. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai. Y en a, moi, c'est les cinq que je connais, principalement Candela, Pascal, C12, Cobly et Alice et Bob. Mais on voit que chacun est en train d'avancer sur son. Alice et Bob a fait des annonces aussi récemment. Pascal continue aussi à travailler, notamment avec des industriels comme CMA CGM, le propriétaire de BFM Business, qui a investi dans Pascal. Ils travaillaient avec Aramco. Mmh. En plus, ils commencent tous à avoir des... Donc, c'est quoi les usages? C'est du chiffrement post-quantique, c'est de la simulation. Voilà,
simuler, oui, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on parle souvent d'ordinateur quantique, et d'où quand on entend ordinateur, on pense à la machine qui sait tout faire, alors qu'en fait, il s'agit de machines
qui
sont capables de travailler sur des cas d'usage très spécialisés.
C'est pas la prochaine génération de l'informatique, c'est un domaine à part pour des...
Oui, absolument.
Parce que ça sait pas tout faire, en fait.
Faire infiniment mieux que les ordinateurs classiques. Ça sait résoudre infiniment mieux et infiniment plus vite que les ordinateurs classiques une petite classe de problèmes qui sont des problèmes fondamentaux, comme la cryptographie. Mmh. Mais quand je dis une petite, c'est comparé à la résolution de tous les sujets universels tels qu'on le voit dès qu'on parle à ChatGPT et qu'on lui demande tout et n'importe quoi. On est vraiment sur de la résolution de sujets bien précis, mais avec des performances qui sont foudroyantes par rapport à l'informatique classique.
Ouais. La simulation, le chiffrement post-quantique.
La santé aussi, je crois.
Oui, c'est dans la simulation.
Oui, simulation.
Et dans l'optimisation aussi, par exemple, je reparle de CMA-CGM, c'est l'optimisation de trajectoire. Savoir, tiens, par rapport à des courants marins, à des choses comme ça, comment on va...
Il faut un ordinateur quantique pour piloter un bateau, maintenant.
Mais il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte que pour trouver les meilleures trajectoires...
Oui, les courants, les vents, la météo, etc.
Les machins,
D'accord.
Il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un exemple un peu standard. Puis il y a les capteurs quantiques aussi qui sont l'une des applications. Donc on voit...
Les communications quantiques aussi, qui sont inviolables.
Ça aussi, c'est quelque chose...
Mais là, on est loin de. Je pense que c'est pas Cobly qui va travailler.
Deux qubits qui peuvent se comporter exactement pareil à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Va savoir quoi.
Et si jamais tu interceptes, tu détruis l'état.
Exactement.
Et donc, tu sais que la communication a été perturbée, interceptée.
Eh bien, dites-moi, on se croirait dans Interstellar un peu, non, quand même.
Absolument.
Non, puis c'est vrai qu'il y a 5 ans, on parlait essentiellement de recherche, et là, ça y est, on commence à dire, on arrive à des débuts d'industrialisation. Mais attention, en face, il y a aussi des Google IBM.
Des moyens gigantesques.
Voilà.
Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, parce que c'est vrai que quand on évoque le quantique, en général, c'est un sujet, comment dire...
Je pense toujours à cette phrase de Bernd Banke, qui, sur les taux, quand il expliquait les taux d'intérêt, il disait... si vous avez compris, c'est que je me suis allé expliquer. Et j'ai toujours cette impression-là sur le quantique.
Oui, sur le quantique, c'est passionnant, mais c'est très abstrait.
Moi, j'avais trouvé une analogie. Pour le cas de Cobly, j'avais trouvé une analogie qui me semblait pas mal. C'est que le quantique, c'est comme un four très spécial de grand chef de cuisine, mais qu'on ne sait pas installer dans ses cuisines parce qu'on n'a pas les cuisines qu'il faut. Et là, Cobly propose une solution qui se branche sur la prise qu'il y a dans ta cuisine.
Oui, qui standardise un peu le
Qui s'approche d'une utilisation avec des moyens existants.
Voilà, et dès que tu parles de cuisine, là, tout le monde comprend. Enfin, moi, personnellement,
c'est
je comprends.
C'est pas plus clair. Hein.
On enchaîne avec un autre sujet concernant Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, s'émancipe d'OpenAI, ou alors OpenAI s'est émancipé de Microsoft, ça c'est tout dépend de quel côté on se place. Microsoft prépare en fait ses solutions d'IA. Christophe, tu as un peu creusé le sujet. Explique-nous en fait, ce que Microsoft est en train de mettre en place en termes de stratégie d'IA.
Microsoft, comme la plupart des acteurs logiciels, fait face à un peu à une menace existentielle avec l'arrivée de l'IA. On voit bien que tous les acteurs sont chahutés et on se pose des questions avec l'IA générative. Est-ce qu'on aura besoin de logiciels ? Donc, ils sont face à... Donc, pour Microsoft, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont réussi l'interface graphique avec Windows à l'imposer, l'Internet, Azure, ils ont réussi un retournement. Et là, ils sont de nouveau face à ça. Et en regardant cette rafale d'annonces où on est un peu perdu, je pense que je retrouve quand même des thématiques et un ADN qui existe. C'est-à-dire que face à ça, la première chose, c'est qu'ils s'étaient appuyés sur OpenAI pour rester... dans l'écosystème AI, il s'en émancipe autant qu'à mon avis OpenAI s'émancipe.
C'est lui qui l'a repéré aussi en 2017, Satya Nadella.
Il a dit oula, eux, on va les surveiller.
J'avais expliqué précédemment que je pense que Microsoft a beaucoup gagné du deal de sortie. Là, ils enfoncent le clou en développant leur propre modèle et finalement en commoditisant le LLM, en disant la valeur, elle est plus sur les agents. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les investissements en dizaines de milliards, il va falloir avoir un retour sur investissement.
Voir sur la couche d'infrastructure.
Le retour sur investissement, il est sur ASML, sur Nvidia. Mais qui va récupérer la monétisation de tout ça ? Et c'est la vision de Microsoft, c'est pas le LLM tout seul, c'est les agents en tant que tels. Donc, ils ont un énorme atout, c'est toutes les données, la base installée qu'ils ont chez les clients. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commoditisent, ils développent leur propre modèle IA. Donc, ensuite, ils se disent, on avait copilote, mais ça marche pas très bien. On passe de le copilote à l'autopilote, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on imite un peu Open Cloud, toutes ces choses où on dit, on va pouvoir confier les agents. Ils vont même un cran plus loin en disant, vous allez avoir un sorte d'alter ego, de chief of staff de vous-même, qui s'appelle Scout ou Scout en anglais, oui. Où vous allez pouvoir lui poser les questions. Il va agir comme un utilisateur. Il va pas être à côté de vous, mais il va être dans Windows.
Il le met dans Teams, c'est
oui,
tout ça.
Oui, il est au cœur de Windows, il a accès à tous vos outils. Et d'ailleurs, Microsoft le considère comme un utilisateur vu de l'IT. Donc, je pense qu'on va bientôt lui demander de payer une licence aussi. Donc, on a ça. Donc, on capitalise sur la part de marché qu'on a. Donc, on enferme l'utilisateur dans ça. Mais néanmoins, on se dit un jour ou l'autre quand même, OpenAI ou Anthropic vont vouloir accéder à ces données. Donc, on met un péage. Donc, c'est WorkIQ. Il s'appelle pas ça comme ça, mais c'est un péage où les API, au début, on peut taper dedans. Puis, petit à petit, on va le dire, maintenant, c'est payant. Il faut pas consommer autant. Donc là, on s'assure. Et puis derrière ça, on envoie un bon écran de fumée de ce qu'on aurait appelé en bon vieux temps du vaporware, c'est-à-dire un nouvel écran, un nouvel appareil.
Oui, j'ai vu qu'il y avait du hardware aussi.
Des badges,
aussi.
Ouais. Dont la philosophie est l'interface utilisateur prédéfinie, ça n'existe plus.
Ouais.
L'interface, elle est contextuelle. Si je suis une infirmière et que j'ai un badge électronique comme ça, si je donne un compte-rendu, tout de suite, c'est le bouton compte-rendu qui s'affiche avec l'interface, ce modèle. Et donc,
c'est-à-dire que l'IA adapte l'interface selon ce qu'on est en train de dire.
C'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant des dizaines d'années, à savoir que c'est l'utilisateur qui doit s'adapter au logiciel, là, c'est le logiciel qui s'adaptera. Donc, ils prennent un cran d'avance sur ce sujet-là et on en est très loin, mais ça permet aussi de... déstabiliser potentiellement.
C'est assez exploratoire et c'est assez intéressant.
Et donc je retrouve une approche finalement, même si la société a changé, etc., mais qui vise je capitalise sur mes positions fortes et j'essaie de me positionner sur la tranche de valeur ajoutée sur laquelle je vais pouvoir aller récupérer l'essentiel de la monétisation.
Voilà, là on est vraiment 100% B2B, hein,
oui.
Tout ce dont
oui.
on vous parle là, hein, c'est vraiment pas pour les particuliers.
Et d'ailleurs tout ça, pour qu'on parle de ces annonces, parce que c'était la grande conférence Build, hein, on est dans la période des grandes conférences de printemps, d'été, on a la Google I.O., on a WWDC dont on parlera lundi soir ici d'Apple, là c'est la grande conférence développeur de Microsoft Build. Mais moi, je trouve que derrière tout ça, il y a un élément qui est en train de revenir en force, c'est Windows. Windows, ça va devenir le nouvel OS pour les agents. Et je trouve que Microsoft, là-dessus, il joue très... J'ai regardé un petit peu sur YouTube ce passage-là de Satya Nadella. Et il replace Windows au centre du jeu. En disant, ça va être l'OS pour les agents. Donc là, il y a un truc assez intelligent. Alors derrière, avec son Scout, là, ses modèles de raisonnement, etc. Il ne met pas OpenAI de côté. Il me dit, voilà, ils s'intégreront comme les autres, mais ils seront peut-être obligés de
oui,
payer.
Voilà, c'est ça.
Et puis, n'oublions pas leur base installée. Quoi. C'est quand même 85% des entreprises aujourd'hui qui sont installées Microsoft. Donc, le jour où ça déploie, ça déploie.
Philippe, un mot là-dessus ?
Deux remarques. La première, c'est que c'est une démonstration à nouveau de la puissance et de Microsoft et de la vision et de la culture de Satya Nadella, puisque c'est de l'intégration verticale de bout en bout, jusque dans les puces. Là, pour ceux qui nous regardent à la télévision, il y avait également des présentations de puces. Donc Microsoft conçoit ses processeurs, donc maîtrise toute la chaîne de valeur. Bon, OpenAI, ils ont jusqu'à 2030, mais 4 ans, ça va passer relativement vite. Pour moi, l'annonce qui m'a le plus intéressé, c'est Scout. Comme tu le disais avec beaucoup de malice, le fait que Scout soit vu comme un utilisateur et donc ait son propre compte avec les effets de licence, c'est amusant. Pour moi, il va y avoir des questions assez intéressantes à se poser sur le plan juridique. C'est-à-dire que le jour où Scout te donne un conseil sur un sujet ou prend une décision, organise une réunion à ta place et je ne sais pas ce qui était prévu ou c'est pas ce qui était voulu, qui va se faire engueuler?
Et si tu quittes l'entreprise, qu'est-ce qui devient ton scout là? Est-ce qu'il appartient
Il pleure. Il pleure, il démissionne, il se détruit.
Il part en burn-out. Ouais.
Non, le sujet de la sécurité et des risques associés, je l'ai creusé un petit peu et passe en détail. Bon, en disant visiblement, il y a une forme de sandbox au début qui est développée pour vérifier, mais après, il y a quand même quelqu'un qui appuie sur un bouton pour que ça marche. Et effectivement, avoir un agent qui effectivement prend les décisions pour toi, ça donne un... Ils sont forcés à ce moment-là d'avoir une vraie réflexion de sécurité extrêmement forte. Et donc une intégration encore plus forte à l'infrastructure Azure, à Entra ID.
Je pensais pas tellement à la sécurité sur le plan technique, je pensais à la sécurité juridique des
juridique,
utilisateurs.
Oui, j'ai compris. Ouais. Bah ça, Microsoft, ils sont forts aussi là-dessus. On parlait des données, la sécurité, c'est partie des gros acteurs.
Belle transition. On va parler de juridique encore une fois et de tech et de voitures autonomes. Ce qui est intéressant avec le véhicule autonome, c'est que vous savez, il y a toujours ce débat. Qui est responsable quand on conduit et qui est responsable quand on a un accident? Vous savez que Tesla ne se mouille pas. Tesla, leur philosophie est simple. À partir du moment où vous enclenchez le bouton du système autonome, le FSD, vous devez tenir le volant parce que vous êtes responsable de tout ce qui arrive, même si la voiture s'encasse dans un mur toute seule. Vous êtes responsable. Ce qui est intéressant, c'est que BYD, qui est l'un des gros concurrents de Tesla, lui, va à contre-courant avec une décision qui est très intéressante. C'est le premier constructeur, en fait, à couvrir intégralement les accidents. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on est responsable pendant un an, je tiens quand même à le préciser. C'est la première année.
Et puis c'est en Chine pour l'instant.
C'est la première année. Effectivement.
Mais c'est l'année pendant laquelle t'oses pas lâcher le volant.
Parce que t'as peur.
Et uniquement sur certaines fonctions. Enfin voilà, il y a quand même un.
Exactement. Avec en plus le dernier système qui s'appelle God's Eye, le 5.0. Mais en gros, voilà, vous achetez une BYD, vous cochez toutes les cases, vous êtes en Chine, etc., etc. Si vous avez un accident durant la première année en conduite autonome, eh bien, c'est BYD qui paye. Voilà, c'est pas vous, vous n'êtes pas responsable. Je trouve ça intéressant parce que, ça a fait réfléchir tous les constructeurs automobiles, parce que là, avec ce coup de pied dans la fourmilière, ça va donner forcément
des réflexions
sur tous les constructeurs auto. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Qui commence? Philippe ou Christophe, dites-moi.
Vas-y Philippe.
Moi, je suis en train de rechercher parce que j'ai pas assez préparé. Je sais que BYD revendique 200 millions de kilomètres parcourus par sa flotte de voitures tous les jours. J'étais en train de chercher le chiffre de Tesla, le chiffre équivalent, parce que pour annoncer quelque chose comme ça, il faut avoir sacrément confiance dans la capacité d'auto-apprentissage de l'ensemble de ces voitures, dans la capacité de mise à jour. Mais ça, BYD, enfin les Chinois savent faire aussi bien que Tesla sur ce sujet maintenant. Le déplacement que je trouve très intéressant et très intrigant de la part de BYD, c'est que BYD devient son propre assureur. Parce que jusqu'ici, à la fin, le juge de paix sur toutes les questions de responsabilité dans tous les domaines d'application de l'IA, ça sera l'assureur qui décidera de prendre ou de pas prendre, de dire ça c'est assurable, ça ça l'est pas. BYD prend le sujet de vitesse. Alors, c'est limité, je crois, au périmètre strictement de la Chine. C'est,
oui, enfin, oui, oui. Et puis, c'est les déplacements urbains aussi.
Et puis,
hein.
Et puis ils disent, ils pourront aller vérifier les données pour voir si tout a été bien respecté.
Oui, 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 bien sûr.
Oui, 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 voilà. Mais néanmoins, ils font ce mouvement de se dire, je deviens assureur pour apprendre peut-être ce marché, cette activité-là.
Mais c'est un joli coup quand même.
Je fais juste une petite parenthèse. Si vous nous regardez en image, vous verrez passer les porte-conteneurs. Enfin, ils construisent leurs propres porte-conteneurs. BYD, on les voit à l'écran.
Pour transporter leurs voitures.
Ils vont en construire 6 ou 7 pour transporter plus de 9000 voitures. Si vous regardez en télé, vous les voyez apparaître derrière. C'est absolument.
Mais ils vendent de la confiance et d'ailleurs, dans les assurances, ils assurent le dommage aux personnes, les frais médicaux, etc. Donc c'est vraiment.
La confiance, ça devient l'argument commercial. Tu sais, peu à peu, on est arrivé. Avant, c'était le moteur, 6 cylindres en V, voilà, ça freine bien, etc. Après, on a commencé à parler du multimédia. Voilà, vous pouvez connecter votre téléphone, vous avez tout la partie navigation et tout ça. Et aujourd'hui, alors, il y a la partie électrique, évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est la confiance. Il va maintenant avec nous.
La question, excuse-moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que BYD souscrit une assurance lui-même?
Ah, bah, certainement.
Est-ce qu'ils se disent, OK, bon, on ne prend pas d'assurance? Non, on part du principe qu'on va avoir statistiquement, tant de millions d'accidents tous les ans sur tout notre parc automobile, et finalement c'est des dépenses marketing.
Il doit y avoir une assurance.
Ils ont certainement une assurance spéciale qui a été conçue, mais encore une fois, c'est sur la Chine uniquement.
Oui, puis c'est le marché. Je connais pas le marché chinois d'assurance. Voilà, c'est peut-être très différent.
Je peux penser que c'est le cas. L'autre chose, c'est qu'il y a certainement des petite ligne dans le contrat, il y a ça dans de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le message marketing. Parce que ce qu'on retient, la une, enfin, c'est le message majeur, c'est, ben voilà, BYD prend toute la responsabilité, quoi qu'il arrive. Donc, c'est une façon de, la meilleure démonstration de confiance, c'est finalement d'accepter d'en payer les erreurs. Et vis-à-vis de, je pense que aussi, c'est aussi un, dans l'image de l'entreprise, aujourd'hui, il y a eu notamment aux États-Unis ou en Europe par rapport à Tesla, on se dit bah oui attends BYD, il y avait historiquement une image de la construction des acteurs chinois qui était de moindre qualité. Je pense qu'ils ont bien progressé là-dessus. Et là quelque part, bah ils ont un différenciateur sur un élément vraiment très important.
Quand on y réfléchit, c'est quand même important dans le secteur. Je trouve cette annonce, elle est
important parce que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle.
Ça met la pression sur les gens.
Mais je trouve que ça met la pression. Non, mais ça met la pression en fait sur les constructeurs. Ça met la pression aussi sur les assureurs,
bien sûr,
qui pour l'instant ne se mouillent pas avec ce truc qui va leur péter la figure un jour ou l'autre. Ça c'est clair. Et je trouve que BYD là,
et ceux qui font le logiciel,
bim, avance.
Tu vois, ceux qui font le logiciel aussi, tu vois, avec le logiciel de niveau 3, niveau 4,
évidemment.
Et donc, je trouve que là, c'est un signe. Mais je pense qu'encore une fois, c'est
la conduite assistée en cycle urbain et le parking autonome. Hein, donc, le message envoyé aux concurrents, il est redoutable.
Ah ben moi, pour moi,
c'est chiche.
C'est une attaque indirecte ou directe sur Tesla. Hein, vous faites comme ça, ben nous, on a entièrement confiance en nos IA. Regardez.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont confiance aussi parce que, comme tu le disais, Philippe, il y a un nombre de kilomètres parcourus et que maintenant, la capacité d'apprentissage des systèmes à base de caméras. Ils ont des LIDAR ou pas, BYD? Non, ils ont des caméras comme...
Je pense qu'ils ont des LIDAR.
Oui, ouais, ils ont des LIDAR. Mais enfin, tous ces acteurs ont une capacité d'apprentissage pour pouvoir, évidemment, de réagir. Ils ont une meilleure confiance dans leur capacité à éviter les accidents.
Il nous reste 3 minutes, j'aimerais qu'on évoque un autre sujet, alors qui est intimement lié aussi aux voitures autonomes, c'est non pas des voitures robots, mais des robots humanoïdes, tout simplement. Et il y a quand même un vrai accord entre tous les investisseurs et les industriels en disant, demain, ça va être le nouvel Eldorado technologique, les robots humanoïdes qui vont transformer l'industrie, mais aussi les foyers, parce que dans la prochaine décennie, on achètera des robots humanoïdes comme on achète aujourd'hui peut-être une voiture ou un scooter, etc. Et ces robots, alors évidemment, seront dans les usines, ils le sont déjà, mais peut-être que demain, ils seront à la maison, ils vous rendront un coup de main, ils feront le ménage à votre place, des tâches ménagères, etc. Ou peut-être qu'ils pourront accompagner les personnes âgées. Évidemment, c'est pas les constructeurs de robots qui disent ça, c'est vraiment les investisseurs, qui disent...
Ils mettent un vrai pari, c'est le vrai pari des
investisseurs. On met un ticket là-dessus, dans 10 ans, ça va inonder le monde et le marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? rapidement, il nous reste, allez, 3 minutes.
Là encore, il va falloir faire attention aux Chinois, parce que c'est les Chinois qui sont le plus avancés. On le voit chaque année au CES. On a beau voir notre Tesla, enfin notre, dans le monde occidental, Tesla avec Optimus. Mais tout le reste, Boston Dynamics, c'est avec SoftBank, donc là, on est un peu plus vers le Japon. Mais Figure AI, One X Technology, enfin voilà, ce sont tous.
Et Boston, donc, Boston, c'est Hyundai en plus.
C'est Hyundai. Tu as raison.
Peut-être que SoftBank a des parts.
Non, tu as raison.
Mais c'est Hyundai.
C'est SoftBank, et puis ils ont revendu à Hyundai, mais en fait, c'est asiatique. Pour moi, le gros sujet, ça va être ça. Ça va être une domination chinoise. Parce que là, des robots chinois chez soi, c'est une autre histoire.
Philippe.
Je le dis de temps en temps quand j'ai la chance et l'occasion d'être sur ce plateau. La Chine a appris en 20 ans à fabriquer des objets de très haute technologie en très, 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 très grande quantité. Moi, il y a deux sujets qui me fascinent avec les robots humanoïdes. Le premier, c'est qu'on se demande souvent pourquoi c'est des robots humanoïdes, pourquoi ils ont cette forme-là. Oui. Et la réponse pour moi la plus simple, c'est qu'en fait, le monde qui nous entoure a été fait pour notre taille. Et que donc, si on veut substituer des aides au plus grand nombre avec un format générique, en fait, on arrive à l'humanoïde. Et puis pour moi, il y a une très très grande question, mais là qui est plus économique, c'est que c'est très bien de remplacer des gens qui travaillent par ces robots, des aides à domicile, etc. etc. Sauf que ces robots, ils ne paient pas de cotisations, ils ne votent pas, ils ne consomment pas. Et donc toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que nos modèles sociaux vont s'adapter. C'est pas une crainte pour moi, c'est vraiment un enjeu de bascule. Parce qu'on va avoir besoin effectivement de toutes ces aides pour des tâches que plus personne ne veut faire et qui pourtant nécessitent de l'aide, avec une très grande question derrière, mais c'est pour une autre fois, qui est celle de la présence, parce qu'un robot pourra sans doute se substituer et assister dans plein de tâches de la vie quotidienne, il ne remplacera jamais la présence de quelqu'un, même quand ce quelqu'un est insupportable.
Tu sais, je pense qu'avec les progrès de l'IA générative et des assistants vocaux, on arrive aujourd'hui à avoir des conversations avec des IA qui sont quand même assez bluffantes. Et je me dis que demain, avec les progrès qu'on va avoir dans ce domaine-là, on pourra avoir aussi des interactions bluffantes avec ces machines. Je pense. Oui. Christophe.
Non, c'est vrai qu'ils répondent à des grands enjeux, des enjeux de dépendance, etc., mais aussi des enjeux militaires, parce que c'est aussi un énorme risque qu'on... On est obligé de maîtriser ces technologies-là. Donc l'avance qu'ont pris les Chinois, je pense qu'au niveau américain, ils vont mettre le paquet. Nvidia est très très présent sur le sujet, ouais. Pas seulement sur les chipsets, mais aussi sur le développement de sa plateforme, la GR00T, là je crois que c'est le nom, qui vise en fait à devenir une plateforme sur laquelle ils vont OEMiser finalement cette plateforme logicielle, et le potentiel, je crois, c'est de l'ordre de 40 trilliards de dollars de ce qu'a dit Jensen Huang sur ce que représente potentiellement la robotique au sens large. Donc oui, je pense que c'est un énorme enjeu. Et là, c'est un bon exemple là où l'Europe regarde un peu
les
trains passés.
Elle regarde surtout les feux d'artifice chinois dont on n'a pas compris la symbolique. Et quand vous êtes capable de faire des feux d'artifice en 3D avec des effets magiques, avec des milliers de drones parfaitement synchronisés, en fait, vous faites une démonstration de force militaire
énorme
qui est sous nos yeux.
Oui.
À tous les nouvel an chinois, à tous les nouvel an, c'est sous nos yeux et on n'a pas compris.
Ça sera le mot de la fin, parce que c'est vrai que c'est très fort. Bravo, Philippe. Il mérite d'être chez Jolt, quand même. Mm-hmm. Là, ça sera la conclusion.
La robotique, c'est fantastique.
La robotique, c'est fantastique. Alors, pas tout de suite, mais dans 10 ans. Moi, je pense qu'il y a tout un sujet, évidemment, pour les seniors qui restent chez eux et qui auront besoin d'assistance. On voit que c'est de plus en plus compliqué pour eux de trouver des hommes et des femmes qui viennent. Voilà. Ouais. Et
hôpitaux,
je pense que ces robots peuvent avoir véritablement...
Dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Philippe Devost, Christophe Holnet et Frédéric Simotel. On se retrouve demain, Fred, bien sûr.